Tic, Père Philippe, 20 mars 84, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Quelle mesure l'adoration et l'éthique religieuse viennent-elles apporter une nouvelle modalité à l'amour d'amitié? Quelle est cette modalité? Nous verrons ça après. Je reste d'abord sur cette chose principale et puis on verra ensuite progressivement comment cette éthique religieuse va avoir une modification sur tout l'ensemble de l'éthique. Mais, donc là, c'est déjà un problème ultime. Alors, développons progressivement ce que représente cette éthique religieuse. Je vous ai dit, nous sommes en présence d'un acte nouveau qu'on appelle l'adoration, qui est un amour d'une autre dimension, qui est l'amour de la créature comme telle à l'égard de son créateur. Un amour de dépendance et en même temps un amour qui permet d'avoir une autonomie nouvelle par rapport à toutes les autres réalités qui nous entourent. On est conscient dans cet acte d'adoration, qui est la réponse à cette découverte de la dépendance radicale de la créature spirituelle à l'égard de son Dieu. On est en présence d'un amour nouveau, qui à la fois nous met totalement relatif à notre Créateur et qui en même temps nous fait comprendre cet acte du Créateur par rapport à nous-mêmes, qui est unique et qui nous donne une autonomie radicale relativement à toutes les autres réalités. Ça ne supprime pas tout le conditionnement, c'est bien évident, mais ça nous fait comprendre qu'il y a là quelque chose de tout à fait unique. Il faut comprendre qu'à partir de cet acte d'adoration, progressivement, l'homme va acquérir une vertu nouvelle qu'on appelle la vertu de religion. Alors, posons-nous ici exactement comme pour les autres parties de l'éthique. L'acquisition de cette vertu est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose de nécessaire, l'acquisition de cette vertu, parce que, justement, l'imagination risque toujours de faire que cet acte d'adoration ne soit plus ce qu'il doit être. Alors c'est ici où il y aurait quelque chose de très intéressant à voir, les excroissances de l'adoration, au point de vue imaginatif, à cause justement de l'imagination, qui font dévier le point de vue de l'adoration. D'où la nécessité d'une vertu qui vient orienter d'une manière radicale à travers nos actes, vertus acquises, pour que notre adoration soit vraie. Pour que notre adoration demeure vraie. Notre adoration est vraie par elle-même, il faut qu'elle demeure vraie. C'est plus juste de dire qu'elle demeure vraie. La vertu est là pour faciliter l'acte d'adoration, et pour permettre à l'acte d'adoration de demeurer dans sa rectitude profonde, parce qu'il y a une rectitude particulière de l'acte d'adoration. Alors, quelles sont ces excroissances de l'adoration? Quelles sont les excroissances que peuvent venir de cette affectivité très fondamentale d'une créature dépendante à l'égard de son créateur? Je crois qu'on peut prendre deux excroissances. Il y en aurait beaucoup, hein. J'en prends deux majeures. Première excroissance, le fanatisme. Le fanatisme religieux est une excroissance de l'adoration. Ça existe, le fanatisme religieux. Nous avons de très beaux exemples actuels. C'est évident. Le fanatisme religieux consiste à se servir de l'adoration pour prendre la parole au nom de Dieu. Puisque l'adoration nous met en contact direct de dépendance à l'égard de Dieu, sous le point de vue de l'imagination, on peut à ce moment-là se considérer comme étant le défenseur des droits de Dieu et d'imposer à tous ceux qui sont autour de nous nos opinions religieuses. Il y a une mobilisation qui peut se faire par le point de vue de l'adoration, mais une excroissance de l'adoration. Ordinairement, quand il y a du fanatisme religieux, il n'y a plus beaucoup d'adoration. S'il y avait vraiment une attitude d'adoration, il n'y aurait pas ces excroissances. Oui. L'adoration en elle-même est droite. Mais à cause de l'imagination, il peut y avoir des excroissances. Les excroissances sont toujours possibles. Et ces excroissances, alors, donne ce qu'on peut appeler un fanatisme religieux. Et ce fanatisme religieux, justement, c'est de faire que tout est mobilisé à ce moment-là en vue d'une domination. C'est le point de vue de la puissance qui se développe. C'est relié fondamentalement à une dépendance à l'égard de Dieu et une dépendance affective à l'égard de Dieu. C'est relié fondamentalement à cette volonté, puisque l'acte d'adoration relève de la volonté. C'est relié donc fondamental à cette volonté, mais une volonté qui n'est plus une volonté d'adoration, une volonté qui va se transformer en une volonté de puissance. Dans tout fanatisme religieux, il y a une volonté de puissance. Et je crois que le fanatisme religieux provient de cette confusion qui se fait au plan imaginatif, entre la créature et le créateur. La créature prend la place du créateur. C'est pour ça que le fanatisme religieux fait qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'adoration. Et il n'y a plus qu'un désir de conquête. Il n'y a plus qu'un désir de domination. Donc, c'est la volonté, vous voyez, c'est ça qui est important à souligner, c'est la volonté affective qui se transforme en volonté effective. Je vous ai déjà dit cela en éthique, qu'il fallait bien comprendre que notre volonté était premièrement une volonté affective. La volonté est une faculté d'aimer. En premier lieu, c'est une faculté d'aimer. Et en second lieu, c'est une efficience. Descartes ne voit plus que l'efficience, et c'est pour ça que dans le langage habituel, un être volontaire s'oppose à un être de cœur. Celui-là, il a beaucoup de cœur, celui-là, il a beaucoup de volonté. Dans le langage français, c'est très net. Regardez dans d'autres langues, si on trouve exactement le même parallélisme entre les deux. Ou est-ce que c'est un phénomène qui provient de Descartes, qui lui dit que la volonté est une volonté d'efficience. Il ne regarde absolument plus ce qu'il y a de premier dans la volonté, cette capacité d'aimer. Et pour Descartes, la capacité d'aimer n'est plus au niveau volontaire, elle est uniquement au niveau passionnel. Écoutez, s'il y a un téléphone, dites qu'il y a un cours. C'est pour qui ? Parce que c'est très gênant de... Bon. Je crois qu'il faudra quand même... Les heures de cœur, les heures de cours sont les heures de cours. Si on considère que les cours ont une importance, les coups de téléphone peuvent attendre. Sauf dans des cas très particuliers. Ceux qui savent, alors qui doivent être pris, se mettent dans le fond, dans le dernier rang. Pour, s'il peut savoir d'avance qu'on peut être pris, alors ils se mettent dans le fond. Mais les autres, s'il y a des coups de téléphone pendant le cours, on attend, et c'est tout. Hein. Moi, j'ai jamais arrêté mon cours par un coup de téléphone. Je peux me mettre quelquefois en retard pour le cours à cause d'un coup de téléphone, c'est différent. Mais autrement, on arrête, on ne doit pas. Ça, je crois qu'il faut prendre des mesures assez nettes. Je ne voyais pas à Fribourg à venir à plein d'étudiants un coup de téléphone. Ça ne se fait pas. Et je crois qu'il y a un respect à la tenue du cours. Parce que c'est très gênant. Si on est pris par le cours, c'est très gênant de voir quelqu'un qui vient inspecter les gens et les appeler. Bon, alors continuons. Le fanatisme religieux. Donc le fanatisme religieux, c'est justement cette volonté affective qui se transforme en une volonté d'efficacité. L'amour se perd comme amour, l'amour n'a plus la même vertu, et c'est d'autant plus facile lorsqu'il s'agit de l'adoration. Parce que quand il s'agit d'un amour d'une personne, la personne étant présente, la personne est là qui nous attire. Tandis quand il s'agit de Dieu, Dieu est invisible, Dieu est caché. Donc, nous l'atteignons par l'intelligence ou par les traditions religieuses, mais nous n'avons pas un contact intellectuel direct, pas d'expérience intellectuelle de Dieu. Donc, l'amour reste, l'amour d'adoration reste toujours un amour caché. Un amour qui ne peut pas, par lui-même, si vous voulez, avoir... Son évidence. De sorte que c'est à la fois très fort l'adoration, mais c'est en même temps très fragile. C'est pour ça que l'acte d'amour, d'adoration, peut si facilement se corrompre. Et il se corrompt plus facilement que l'amour humain. Il est plus fort, il est plus enraciné en nous, il a une force beaucoup plus grande en nous, mais il est plus fragile. Et parce qu'il est plus fragile, il peut plus facilement se corrompre. Il y a quelque chose en lui qui est plus facilement corruptible. Alors parce qu'il est plus facilement corruptible, il a d'autant plus besoin que l'aspect imaginatif ne vient pas le corrompre. Et l'aspect imaginatif peut alors très facilement à ce moment-là faire passer cette volonté affective en une volonté de puissance, c'est-à-dire une volonté d'efficacité, puisque la volonté de puissance est une volonté d'efficacité. Et on se sert à ce moment-là de toutes sortes d'opinions pour considérer que c'est une guerre sainte, une lutte sainte, et on mobilise toutes ses forces et les forces des autres pour une guerre sainte. Ça devient le fanatisme. Alors, c'est le gros problème des croisades. Ça, on ne traite pas ici, mais il faudrait nota bene, est-ce que les croisades, c'est du fanatisme, ou est-ce que les croisades, c'est pas du fanatisme. Alors, les croisades, en tant que chrétiens, pas en tant que philosophes, mais en tant que chrétiens, ont été commandées par des saints, donc je ne peux pas dire que les croisades étaient du fanatisme. Mais voyez comme c'est difficile, vu de l'extérieur, hein, vu de l'extérieur au point de vue purement sociologique. Quelle différence y a-t-il entre une croisade et une guerre fanatique? Vu de l'intérieur, je crois qu'on peut assez facilement, par la finalité, comprendre que par la finalité, il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas une volonté de puissance, c'est une volonté de libérer des lieux saints. Et c'est une libération des lieux saints qui était le but propre de la croisade. Donc ce n'est pas une volonté de puissance. Mais évidemment, parmi les croisés, il pouvait y en avoir qui étaient galvanisés et qui devenaient alors des gens, et peut-être que c'est cela qui criait le plus fort, des gens qui, au fond, tombaient dans un fanatisme religieux. c'est important de saisir ça. Les croisades, il n'y avait pas qu'un point de vue religieux, il y avait un point de vue de foi. Donc il y a là un nouveau problème, si vous voulez. Il faudra essayer de comprendre ça quand on essaiera de voir l'éthique chrétienne. Parce que c'est quand même très intéressant d'essayer de comprendre ces problèmes-là. Parce que ce sont des problèmes qu'on vous met toujours entre les pattes. Ça, c'est évident. Il y a des émissions sur les croisades, des émissions sur l'inquisition, fanatisme. Alors, c'est difficile de bien voir la différence. Donc, il faut voir d'abord, au point de vue proprement éthique religieuse, la corruption de ce que représente l'adoration, de ce que représente cet amour fondamental vis-à-vis de Dieu créateur. Et comment cet amour fondamental peut se corrompre par le point de vue de l'imaginaire et tomber dans un fanatisme. L'autre corruption, c'est le scrupule. Ce sont les deux corruptions. Le scrupule est moins dangereux puisque c'est ordinairement individuel. Tandis que le fanatisme devient très vite communautaire et devient très vite politique. Donc il est beaucoup plus dangereux parce qu'il n'a plus de répercussions sur les autres. Tandis que le scrupule est une déviation, une excroissance de l'adoration. Alors, c'est très curieux de voir ces deux choses-là, vous voyez, parce que le fanatisme religieux fait appel à l'irascible. C'est l'irascible qui est au cœur de tout fanatisme religieux. Alors, on mobilise notre irascible, notre volonté de puissance. Et on les mobilise en vue d'une fin qu'on colore religieuse et qui est en réalité une volonté de puissance, une volonté de domination. Tandis que lorsqu'il s'agit du scrupule, c'est le concupiscible, ce n'est pas l'irascible. Les scrupuleux ne sont pas dans un état de colère. Les scrupuleux sont plutôt ceux qui tomberont dans un état de faiblesse, de fragilité, de très grande vulnérabilité. Et le scrupule est une excroissance de l'adoration. Alors, comment comprendre cette excroissance ? L'adoration nous fait comprendre notre petitesse, notre relativité à l'égard de Dieu, et de comprendre que l'autorité de Dieu sur nous est toute puissante. C'est l'autorité d'un père, mais c'est l'autorité toute puissante. Si je ne regarde plus le point de vue du père, et que je ne regarde plus que la justice, va se corrompre l'adoration et le scrupule va naître. Le scrupule naît toujours par un sens trop grand de la justice. Vous allez comprendre. C'est curieux, vous voyez, que des deux côtés, c'est l'oubli de la paternité. J'adore un père. C'est pour ça que ces deux excroissances, qui sont tout à fait différentes, ont quelque chose de commun. Et des deux côtés, c'est l'oubli de la paternité. On adore notre père, notre Dieu qui est notre père, qui est notre créateur. Et alors, on oublie le point de vue de la paternité et on ne regarde plus que la toute-puissance. Et la toute-puissance, alors, fait qu'on se met à faire que cette toute-puissance de Dieu prend possession de nous-mêmes et nous devenons les témoins de la toute-puissance dans l'excroissance justement du fanatisme. De l'autre côté, on oublie la paternité, on oublie donc la confiance et on ne regarde plus que la justice. Dans le Dieu créateur, il y a le Père, il y a la toute-puissance, il y a la justice. Alors, on peut très bien ne regarder que la justice. Alors, quand on ne regarde que la justice, on s'aperçoit comme coupable vis-à-vis de tout ce qu'on devrait faire vis-à-vis de Dieu. Par l'adoration, on a le sens de sa petitesse et de sa pauvreté. On est une partie en face du tout. Et donc, la partie devrait être entièrement donnée, entièrement brûlée. L'adoration conduit à l'Holocauste. Et si pour une raison on voit qu'on n'est pas totalement donné et que non seulement on n'est pas totalement donné, mais qu'on a désobéi, qu'on n'a pas regardé uniquement Dieu, on s'est regardé et on s'est aimé plus que Dieu, à ce moment-là, on entre dans le scrupule. Le scrupule, c'est ce repliement sur sa conscience religieuse. Le scrupule a toujours une origine religieuse. C'est un repliement sur sa conscience religieuse qui fait qu'on se voit comme rejeté, comme indigne, comme celui qui, tout le temps, a les mains sales. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait blesse Dieu. Tout ce qu'il fait est une injustice. C'est une désobéissance, une injustice. Donc quelque chose qui brise ce lien d'amour. Qui brise ce lien d'amour à l'égard de Dieu. On n'est plus dans cette attitude d'amour et d'adoration vis-à-vis de Dieu. Et on est replié sur soi. Et ce repliement sur soi est quelque chose qui nous empêche d'être vraiment en état d'adoration, c'est-à-dire en état d'amour. Vous voyez, alors, ici, ce n'est plus le passage de l'amour à l'efficacité. C'est le passage du repliement à l'intérieur de l'amour sur la connaissance et la conscience. C'est le primat de la connaissance et de la conscience sur l'amour. Et alors, en regardant ça, c'est pour ça qu'il y a toujours une part intellectuelle dans le scrupule. C'est religieux et rationnel. Et c'est un manque d'affectivité. C'est un manque d'amour. Tout scrupule est à base de manque d'amour, parce qu'il n'y a pas eu la confiance. Alors, ça peut venir par des causes qui sont psychologiques, mais le scrupule profond, c'est toujours un manque d'amour et ce repliement sur le point de vue de l'intelligence. Et alors, on est trop attentif à sa conscience. On écoute trop sa conscience. On ne voit plus que cela. Et à ce moment-là, même l'opinion des autres, ou l'opinion de ceux qui peuvent nous connaître, n'existe plus. On est tellement pris par cette attitude de repliement sur soi. Vous voyez donc qu'il y a là ces deux excroissances qui proviennent de l'imagination. L'imagination liée à l'irascible, l'imagination liée au concupiscible. Et je crois que le sentiment de culpabilité, vous voyez, est quelque chose alors, donc, psychologique. Tandis qu'ici, nous sommes dans l'ordre éthique. Il faut bien voir, je vais plus loin. Le sentiment de culpabilité, c'est le résidu de cela. Ce n'est pas premier, le sentiment de culpabilité. C'est un résidu, c'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est de savoir si on est en dehors de l'attitude d'adoration par une attitude de scrupule, qui freine et qui nous empêche d'adorer. Ou une attitude de volonté de domination. Alors ça, c'est beaucoup plus concret. Le point de vue psychologique tel qu'on l'entend aujourd'hui n'est jamais entièrement concret. Il est abstrait et il se croit concret. Alors ça serait très intéressant à étudier par rapport aux scrupules et par rapport à ce désir religieux de dominer, d'essayer de comprendre ce que c'est que le sentiment de culpabilité au niveau psychologique. Le sentiment de culpabilité est au niveau psychologique. Ça n'a rien à voir avec l'éthique. Tandis que ces deux excroissances sont directement reliées à l'éthique. Et donc sont beaucoup plus concrètes. Et c'est cela qu'on doit regarder en premier lieu. On doit regarder les conséquences du scrupule. On doit regarder les conséquences de cette attitude de celui qui est fanatique au point de vue religieux. On a tous en nous hein, ces deux excroissances. On a tous des petits brins de fanatisme. On a tous des petits brins de scrupules. C'est éthique. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est le dépasser. Et c'est justement là où on voit la nécessité d'acquérir la vertu de religion pour dépasser le fanatisme religieux et pour dépasser le scrupule. Et ça ne peut se faire que par la vertu de religion. Alors vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Dans un monde comme le nôtre, où de fait, le matérialisme ou le laïcisme supprime la conscience religieuse, supprime la possibilité d'acquérir la vertu de religion. Si on est né dans une famille profondément chrétienne et qui a le sens de la vertu de religion, on aura acquis, quand on était très jeune, la vertu de religion. Puisque notre mère ou notre père nous auront fait prier. Et on acquiert la vertu de religion en priant. Celui qui ne prie plus n'acquiert pas la vertu de religion. Parce qu'elle n'est pas innée. Un gosse dans le berceau, même s'il est baptisé, n'a pas la vertu de religion. Il a la vertu infuse. C'est déjà beaucoup. C'est un appel. Mais il n'a pas la vertu acquise. Donc il doit l'acquérir. Donc, dans une éducation laïque, dans une éducation matérialiste, qui fait qu'on oublie volontairement l'attitude religieuse. On oublie volontairement l'éducation religieuse. On l'oublie. Qu'est-ce qui se passe? L'appétit naturel religieux demeure. Il est naturel. Et comme il n'y a pas la vertu acquise, l'imaginaire va s'emparer de cet appétit pour nous faire tomber dans des fanatismes religieux ou des formes secondes de fanatismes religieux. Parce qu'il peut y avoir des fanatismes politiques qui sont en réalité des fanatismes religieux. Et il peut y avoir des repliements sur soi, au point du scrupule, qui nous paralysent complètement et qui nous mettent dans un état d'inhibition tel qu'on est complètement paralysé. Vous voyez, c'est important de saisir ces maladies qui proviennent, ces maladies éthiques, qui proviennent du manque de l'acquisition de la vertu de religion. Parce qu'elles sont très fondamentales, hein, comme l'appétit religieux est très fondamental. L'appétit religieux en nous, c'est quelque chose de radical. Il n'y a rien de plus fondamental que ça au point de vue naturel. Hein. Puisque quand il s'agit de la foi, ça présuppose la nature. Tandis que ce qui est le plus radical en nous, c'est notre appétit religieux. C'est notre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui est le plus radical. Si cet appétit naturel, religieux, est la chose la plus radicale, on comprend que les excroissances de cet appétit sont aussi les choses les plus violentes. C'est vraiment ce qui est le plus violent. Le point de vue du fanatisme et le point de vue du scrupule. Qui peut aboutir vraiment à une attitude d'inertie totale à cause du scrupule. À cause de cette espèce d'arrêt profond de l'élan du cœur. Et que cet élan du cœur était brisé. Alors, l'acquisition de la vertu de religion, qui va endiguer le fanatisme religieux, qui va endiguer le scrupule. Si j'ai la vertu de religion, je ne peux plus être un fanatique religieux, et je ne peux plus être un scrupuleux. J'aurai une attitude droite, une attitude forte qui proviendra de la vertu de religion. Alors, premièrement, la vertu de religion s'acquiert par des actes religieux. L'acte religieux par excellence, c'est l'adoration. C'est par l'adoration et en faisant des actes d'adoration que nous acquérons progressivement la vertu de religion. On peut l'acquérir à n'importe quel âge. N'oublions pas ça. Les psychologues diraient, à partir d'un certain âge, on ne peut plus l'acquérir parce qu'on a un conditionnement tel qu'on ne peut pas. Eh bien, c'est faux, ça. Puisqu'il y a un appétit naturel. L'appétit naturel, même s'il est enfoui, peut se réveiller à n'importe quel moment. Et nous pouvons réveiller en nous ce que représente cet appétit religieux. Toujours. Même si on a vu une vie très peu religieuse. On est avec des instincts colériques extraordinairement forts et des instincts du concupiscible extrêmement forts qui ont enfoui momentanément notre appétit religieux. Ça, vous pouvez très bien avoir des personnes qui ont l'air d'être totalement indifférentes. Et quand vous dites « Ah, l'appétit religieux, l'appétit religieux est naturel, donc il ne peut jamais mourir. » C'est très vrai, mais peut-être complètement enfoui. Vous pouvez très bien trouver des personnes, des individus, qui sont d'une indifférence totale au point de vue religieux. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais éduqué cet appétit fondamental et qu'elles se sont laissées prendre par le point de vue de l'irascible et du concupiscible. Alors, se laissant prendre par le point de vue de l'irascible et du concupiscible, ils sont dans un état où le point de vue religieux est complètement éteint. Oui. C'est la troisième étape qu'on pourrait mettre. Hein. J'ai dit les deux excroissances, on pourrait mettre le fait, l'indifférence. Parce que l'indifférence, c'est pire encore. Hein. C'est pire. J'aime mieux un fanatique que quelqu'un qui est complètement indifférent. L'indifférence, c'est l'état, vous voyez, dernier où il n'y a plus du tout l'appétit religieux est comme éteint. Et ceci est possible. Ceci est possible parce que l'appétit religieux ne s'éveille qu'en troisième lieu. C'est d'abord le concupiscible, l'irascible et notre volonté d'aimer une personne. L'enfant, génétiquement, je crois qu'on doit le dire, aime plus sa mère que Dieu. Il y a un premier amour à l'égard de sa mère qui est premier. Et il n'éveillera en lui l'appétit religieux explicitement qu'après, quand sa mère lui apprendra à prier. Et cet amour et cette confiance qu'il a avec sa mère va l'aider à prier. Mais normalement, ce n'est pas premier. Vous ne vous êtes pas mis à genoux dès que vous vous êtes mis à marcher. Et vous n'avez pas mis les mains jointes en disant « Oui, j'adore Dieu, laissez-moi tranquille. » Je ne crois pas. C'est très, très curieux de voir que l'appétit religieux s'éveille en troisième lieu. C'est un appétit naturel très foncier, mais parce qu'il est très foncier, il peut aussi couver sous la cendre. Il peut aussi être dans un état, dans une situation limite, et ne plus pouvoir s'exercer. Et donc, à ce moment-là, c'est l'indifférence complète. On a comme une attitude d'indifférence. Donc, vous voyez, mettez les deux excroissances et cet état d'indifférence. Je crois que c'est très important. Ces deux excroissances et cette état d'indifférence montrent la nécessité d'acquérir la vertu de religion. Je crois que quelqu'un qui a acquis la vertu de religion, on ne peut plus le mettre dans un état d'indifférence. C'est impossible. Parce qu'il a acquis la vertu. Mais quelqu'un qui ne l'a pas acquis, on peut le mettre dans un état d'indifférence. Et c'est pour ça que le démon, l'ennemi numéro un, regarde toujours la question de l'éducation. Parce qu'il sait très bien que si on éduque des jeunes à une attitude religieuse, ils vont acquérir la vertu de religion. Et ayant acquis la vertu de religion, on ne pourra plus les mettre dans un état d'indifférence. Ce sera beaucoup plus difficile. Tandis que si on les prend tout de suite, dès le début, et qu'on les éduque uniquement du côté du concupiscible et de l'irascible, c'est-à-dire uniquement du côté de la prudence, du côté de la force, du côté de la tempérance, moyennement, hein, une morale qui serait une morale laïque. Et on ne parle absolument pas du point de vue religieux. il peut très bien se faire que l'appétit religieux soit complètement endormi. C'est possible. Philosophiquement parlant, il n'y a aucune impossibilité à cela, parce que c'est un appétit très fondamental. Donc, il est à la fois très fort et premier du côté nature, c'est l'appétit le plus fort qui est en nous. Mais génétiquement, il naît le dernier. Il est le Benjamin. Il naît le dernier. D'où la nécessité d'acquérir cette vertu de religion. Cette vertu de religion, donc, est une chose acquise par des actes. Des actes d'adoration, qui est l'aspect fondamental de la prière. Des actes de demande, de louange, tous les grands actes de la vertu de religion. Tous aboutissent à l'acquisition de cette vertu de religion. Cette vertu de religion, elle est enracinée dans notre volonté. Dans notre volonté affective, aimante. Et elle implique l'intelligence, la prudence. La vertu de religion ne peut pas s'acquérir sans la prudence. La prudence qui nous fait comprendre que adorer Dieu, adorer le Créateur, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire dans notre vie. C'est la respiration fondamentale de notre âme spirituelle. Et donc, nous nous donnons à cette adoration comme l'exercice principal de notre vie. C'est ça, être prudent au plan religieux. En comprenant que l'acquisition de la vertu de religion, c'est ce qu'il y a de plus important au point de vue humain. Parce que c'est par là seulement que nous pouvons acquérir une vérité pratique. Sans cette vertu de religion, nous ne pouvons pas être dans une attitude de vérité pratique. Puisque l'attitude de vérité pratique consiste à reconnaître notre état de dépendance radicale à l'égard du Créateur. Puisque nous sommes une créature. Nous sommes fondamentalement une créature. Avant d'être homme. Au niveau métaphysique, on est créature avant d'être homme. Et donc, l'attitude de la créature doit être regardée comme la chose primordiale. Donc c'est reçu dans la volonté pour orienter la volonté dans le sens de Dieu, dans le sens d'une remise entre les mains de Dieu de tout ce que nous sommes, de tout notre être, de tout nous-mêmes. Une remise entre les mains de Dieu. Nous remettons entre les mains du Père ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes. Nous remettons entre les mains du Père. C'est ça l'adoration. Donc, c'est cette remise profonde que la volonté va réaliser en nous, ou plus exactement que l'habitus de la vertu de religion va réaliser à l'intérieur même de notre volonté, pour incliner notre volonté à se soumettre à Dieu, à être relative à Dieu, à l'aimer. Cette vertu de religion, cet habitus, qui s'enracine dans la volonté, dans une volonté éclairée par la prudence, éclairée par l'intelligence. Cette vertu de religion va donc mobiliser tout notre capital d'aimer, tout notre capital volontaire, puisque cet appétit religieux est fondamental. La vertu de religion, parmi toutes les vertus, a quelque chose d'unique. Elle est fondamentale. Et parce qu'elle est fondamentale, elle a une extension très grande. D'une certaine manière, elle va régner sur toutes les autres vertus. Et c'est en ce sens-là, elle n'est pas une vertu cardinale. Elle est plus radicale que les vertus cardinales. Les vertus cardinales, c'est l'homme qui se développe. Tandis que dans la vertu de religion, c'est la créature qui est un homme qui se met en état de vérité à l'égard de Dieu. Alors, on se met dans un état de vérité, c'est-à-dire dans un état de dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et c'est la volonté qui s'incline de cette manière-là. Et cette volonté, elle pourra avoir un rayonnement sur toutes les autres vertus. Et c'est ce rayonnement sur toutes les autres vertus qu'il s'agit de comprendre. Vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas traiter de la question tout de suite. C'est ce rayonnement. Il fallait d'abord comprendre que cette vertu de religion a quelque chose de fondamental et donc d'enveloppement. Elle enveloppe tout. C'est le propre de l'attitude religieuse. C'est que ça enveloppe tout. Ça saisit tout. Ça saisit toute notre vie. Puisque nous sommes créatures dans toute notre vie. Aucun acte n'échappe à notre état de créature. Puisque aucun acte n'échappe à notre état de créature, nécessairement cette vertu de religion aura donc une extension unique. Elle va pouvoir régner sur toutes nos autres activités, en les respectant, sans les modifier spécifiquement, mais en leur donnant une orientation nouvelle, en leur donnant quelque chose de particulier, un exercice nouveau. Elle va comme, si vous voulez, comme régenter, mais en comprenant bien, hein, parce que ce n'est pas du tout une espèce de domination, elle va comme régenter toutes les autres vertus en les assumant, en les orientant vers quelque chose de nouveau, en les orientant vers Dieu. C'est en ce sens-là qu'on pourra parler d'une vie religieuse. Parce que la vie religieuse consiste justement, on ne peut pas dire une vie tempérante, on ne peut pas dire une vie de la vertu de force. Tandis que vous pouvez parler d'une vie religieuse. Et la vie religieuse va de fait, selon les traditions religieuses, dès qu'on sera en présence d'une communauté, va se traduire diversement. Et la vie religieuse, hein, que nous appelons la vie religieuse, c'est une traduction communautaire de la vertu de religion. C'est pour ça que dans toutes les religions, vous avez des religieux et des religieuses. C'est naturel. Une fois qu'on a compris l'importance de la vertu de religion, on comprend la nécessité d'organiser notre vie le plus possible vers l'épanouissement de la vertu de religion. Et ceci, c'est très unique, hein, parce que vous ne pouvez pas dire ça pour le reste. Vous pouvez dire pour l'amitié d'une certaine manière que l'amitié polarise, mais pas avec le même enveloppement. Parce que certains aspects de notre vie échappent à l'amitié. Tandis qu'au contraire, rien n'échappe à la vertu de religion, qui enveloppe tout, qui saisit tout et qui oriente tout dans un sens qui lui est propre. C'est-à-dire dans le sens de la dépendance à l'égard de Dieu et dans le sens de la réceptivité à l'égard de Dieu. À la fois dépendance et réceptivité. De se mettre dans cette attitude fondamentale de remise de tout nous-mêmes entre les mains de Dieu. La vertu de religion va donc avoir à la fois des actes qui lui sont propres et puis des actes impéré. Des actes qui lui sont propres, c'est l'adoration, c'est la demande, c'est la louange, c'est l'action de grâce. Ça qui est directement sous la mouvance de la vertu de religion. Et quand on est en communauté, une prière commune liturgique. La prière liturgique provient de la vertu de religion. Et la vertu de religion demande de s'épanouir de cette manière-là. Et puis, il y a des actes qui proviennent de la vertu de religion. La vertu de religion va faire de nous des serviteurs de Dieu. Alors, on voit apparaître ici, d'une manière très particulière, le point de vue de l'obéissance. Nous n'avons pas parlé de l'obéissance au point de vue éthique personnel. Parce qu'au sens strict, dans l'amour d'amitié, il n'y a pas d'obéissance. Tandis que la vertu de religion va être source d'une nouvelle vertu qui sera l'obéissance. La vertu de religion sera source de cette attitude particulière qui est d'être serviteur de Dieu. D'où l'obéissance.
Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu.